Muito bom dia.
Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général du Conseil de l'Europe pour les migrations et les réfugiés, Mesdames et Messieurs les orateurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Le Portugal, qui a adhéré au Conseil de l'Europe en 1976, c'est-à-dire peu de temps après avoir adopté sa constitution fondatrice du régime démocratique, le Portugal, disais-je, a été un membre engagé et participant dans son assemblée parlementaire. Et c'est donc avec grand plaisir que l'Assemblée de la République accueille l'initiative qui nous rassemble ici. Une initiative d'une actualité brûlante pour tous les États membres et pour le Portugal en particulier. Le Portugal, qui au fil de son histoire était un pays d'émigration et qui aujourd'hui accueille de très nombreuses communautés de migrants. On ne peut pas penser à l'Europe sans penser aux diasporas qui ont amené sa culture vers d'autres continents et qui a permis la construction d'autres États et d'autres nations. Ce fut le cas pour nous au Brésil, en Afrique, à Timor. Et ce fut également le cas d'autres États européens aux quatre coins du monde, sans penser exclusivement aux anciens empires coloniaux. Du fait de son modèle social, l'Europe, et en particulier l'Union européenne, sont un pôle d'espérance pour tous ceux qui cherchent une vie meilleure en fuyant de la guerre, de la douleur et de la mort pour créer de nouvelles communautés, des communautés qui se sont développées pour devenir des diasporas. Des diasporas qui ne sont pas seulement extra-communautaires. Il s'agit également de diasporas intra-union. Et c'est une dimension qui est indissociable des quatre libertés de l'Union. Il n'est donc pas surprenant de voir avec quelle attention le Portugal suit les négociations du Brexit et la façon dont le Portugal répète ce principe fondamental. Le thème de la conférence mentionne les diasporas au pluriel. Et ce ne sont pas en effet une réalité unique et statique. Et les diasporas recouvrent des réalités différentes quant à leur cause, leur temps et leur typologie. À leur racine, le mot renvoie à l'idée de dispersion, de dissémination. En un premier temps, le mot était associé à la notion de mouvement forcé. Aujourd'hui, on l'élargit à un cadre plus vaste de situation. Il y a toujours plusieurs idées qui sont associées à la diaspora. Celle d'identité et d'appartenance à la patrie, au lieu d'origine, en tant qu'individu et en tant que communauté. Leur intégration dans les pays d'accueil pour la première génération et celle qui la suivent, qui permet la construction de nouvelles identités ou la mémoire collective cohabitent avec la réalité locale dans laquelle elles sont intégrées. Le témoignage en est la vie associative qui est si riche et capable de traverser les générations et qui permet de créer des réseaux de diaspora qui structurent le rapport entre les individus et avec le pays d'origine et entre eux. Une autre idée qui sous-tend le thème de la diaspora est celle d'hétérogénéité, car bien souvent, il y a des exigences à surmonter. Il faut apprendre une nouvelle langue, on perd sa culture, ou on s'intègre, ou on est accepté par qui nous reçoit. Et puis, il y a également la mobilité. La mobilité dans l'espace, bien sûr, mais la mobilité sociale, dans l'espoir d'une vie meilleure. Nous sommes tous conscients du fait que des externalités positives sont créées sur le marché des travaux et de capitaux grâce auxquels les migrants contribuent pour le progrès matériel des pays d'accueil. Dans ces cas, l'émigration non qualifiée, l'intégration se mesure par la capacité d'accès des descendants de la première génération à des tâches plus qualifiées que celles qu'avaient leurs parents. Et pour cela, ce qui est décisif, c'est le fait de fréquenter l'enseignement secondaire et supérieur. Il n'y a rien de pire que l'isolement et l'exclusion. L'histoire nous enseigne les dangers du racisme et de la xénophobie. Il n'est donc pas surprenant donc, que nous condamnions fermement la violence des suprémacistes blancs en Virginie et dans d'autres États des États-Unis. Si la réalité est différente, il est vrai que l'Europe peut améliorer sur bien des fronts la lutte contre la xénophobie qui est bien souvent alimentée par des discours radicaux qui se cachent sous le masque du nationalisme anti-européen. Les diasporas sont bien plus que des mouvements de population. Ce sont un facteur d'enrichissement culturel, de pluralité dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine. Il convient dès lors d'accorder une attention particulière au suivi et à l'appartenance des secondes générations, leur attachement à leur communauté d'origine en parallèle de leurs conditions de citoyens des États dans lesquels ils sont nés. Ce sont des éléments qui constituent les diasporas. Elles ne sont pas des éléments statiques. Nous connaissons tous les connaissances de l'évolution du transport aérien au cours des dernières décennies qui a raccourci les distances. Voilà qui a impliqué un changement profond dans la vie des communautés de migrants qui leur permettent de préserver les liens avec la patrie d'origine. Mais aujourd'hui, l'impact sur la société vient surtout de la communication en réseau. Les temps du courrier postal sont révolus. Avec l'Internet, l'interaction entre les personnes est immédiate dans le son et dans l'image. Et les moyens d'information sont également plus grands par le biais des communautés virtuelles. Dans le cas de notre pays, il faut penser au Brésil, le pays où ont émigré tant de Portugais, qui est aujourd'hui la patrie de la plus grande communauté qui émigrait au Portugal. Il en va de même avec sa structure. Il est toujours plus fréquent d'assister à l'émigration de travailleurs qualifiés. C'est le cas des Portugais qui sont partis après la crise de 2008-2009. Et le Portugal en a subi les conséquences. Et également, les États ont également présentent un attrait sélectif pour ce type d'immigrants. Et ce phénomène, s'il n'est pas compensé par un effet de circulation, aboutira à un exode des cerveaux, surtout pour les pays les moins développés. Pour que la circulation des cerveaux soit positive, il est nécessaire que tous les pays, pays d'origine et pays d'accueil, bénéficient de façon équitable et comparable de la mobilité. Il convient également de ne pas oublier les effets de vieillissement démographique dans les pays d'accueil qui perdent leur population ou dans les pays dans les pays qui envoient des immigrants et qui voient leur population se réduire, ou comme dans les pays d'accueil où l'immigration peut avoir un effet qui retarde ce vieillissement mais qui ne vient pas combler à long terme les conséquences économiques et sociales du manque de fertilité. Mais l'externalité des diasporas ne sont pas que négatives. Elles ont un impact positif à plusieurs niveaux. La diffusion de l'image du pays d'origine, la connaissance technologique, le rapport entre cultures, le potentiel de constitution de projets d'entreprise, surtout dans le cas des professionnels qualifiés émigrés. On pense d'ailleurs que 90% résident dans les États membres de l'OCDE. Mesdames et messieurs, avec le lancement du réseau parlementaire sur les politiques relatives aux diasporas, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe apporte un nouveau témoignage de sa vitalité et son engagement pour contribuer activement aux buts qui sont à la mission du Conseil de l'Europe. Je vous rappelle qu'en 2004, déjà, la Commission permanente de l'Assemblée parlementaire, qui agissait en son nom, a adopté une recommandation sur les cultures de la diaspora et que le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe a engagé une action méritoire dans ce domaine. Je formule donc des vœux pour que cette nouvelle initiative soit productive et pour que les réflexions du réseau parlementaire nous aident à mieux comprendre cette réalité, une réalité qui est si complexe. Bienvenue à Lisbonne, bienvenue au Portugal et bon travail.
Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Mesdames, Messieurs, chers orateurs, mes chers collègues, c'est un immense honneur pour moi d'ouvrir cette conférence en compagnie de Monsieur le Président, dédiée au lancement du réseau parlementaire sur les politiques relatives aux diasporas. Permettez-moi tout d'abord de remercier au nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe les autorités du Portugal et tout particulièrement l'Assemblée de la République pour l'accueil chaleureux et l'excellente organisation de cette conférence. J'aimerais également saluer l'engagement politique du Portugal et son soutien à cette initiative. Permettez-moi également de féliciter nos collègues, membres de l'Assemblée à l'origine de ce projet, et tout particulièrement Andrea Rigoni, président de la sous-commission sur la coopération avec les pays d'origine et de transit non européens, de la commission de migration et rapporteur sur plusieurs dossiers relatifs à la question du rôle des diasporas. Mesdames, Messieurs, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, à la fin de 2015, le nombre total de migrants dans le monde s'élevait à plus d'un milliard de personnes, soit un septième de la population mondiale. La vaste majorité de ces personnes se déplacent à l'intérieur de leur pays, mais les migrations internationales représentaient tout de même quelque 244 millions de personnes au moment où l'étude était faite. Les chiffres ont sûrement évolué depuis, mais la tendance n'a pas changé. Les migrations font désormais partie de notre quotidien. Le continent européen est particulièrement touché par ce phénomène. Selon les études de l'OCDE, 5 millions de personnes se sont installées en 2016 de façon permanente sur le territoire des 35 États membres de l'organisation, dont la majorité sont des pays européens. Les flux migratoires continuent d'être influencés largement par la crise des réfugiés qui touche les deux côtés de la Méditerranée et qui est malheureusement loin d'être terminée. Cette vague migratoire présente un certain nombre de défis et d'opportunités pour l'Europe. Cependant, l'absence d'une politique migratoire coordonnée au niveau européen a favorisé la montée des peurs irrationnelles au sein de la population européenne. Ces peurs ont été ensuite exploitées par certaines forces politiques et certains médias qui ont donné une image déformée de la migration présentée comme une menace. Cette approche négative des migrations est très préoccupante. Non seulement elle favorise les discours populistes, nationalistes et xénophobes, incompatibles avec les principes démocratiques que nous défendons, mais aussi elle contribue à créer une fausse image de la réalité économique et démographique dans nos pays. En effet, dans notre dernier rapport sur les migrations, une chance à saisir pour le développement européen, nous avons noté qu'il existait un écart entre la réalité de la situation économique et démographique de l'Europe et la perception négative générale des conséquences des migrations. Les pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs, notamment l'agriculture, la construction, l'hôtellerie, la restauration, l'informatique et les services financiers, ainsi que le vieillissement de la population, sont autant de facteurs qui entraînent une réduction significative de la part de la population en âge de travailler et qui montrent que les migrations pourraient être bénéfiques pour l'Europe. En même temps, il faut reconnaître que les flux migratoires représentent de nombreux avantages dans les pays d'origine migrants. Grâce à leurs liens privilégiés avec leur société d'origine, les communautés de diaspora contribuent au développement des liens commerciaux avec les pays d'origine. Il est également important de mentionner la contribution que les migrants apportent au développement économique des pays d'origine par la création d'entreprises communes, au moyen des transferts de fonds, ainsi que le transfert de connaissances et du savoir-faire. Par ailleurs, les migrants favorisent les échanges culturels et éducatifs en contribuant ainsi à la création d'un véritable environnement pluriculturel et multilingue, à la fois dans leur pays d'origine et dans leur pays et dans les pays d'accueil. De par mon expérience politique personnelle, je connais parfaitement les avantages de cette approche gagnant-gagnant. Pendant 24 ans, j'ai dirigé la ville d'Alfortville, une commune de 45 000 habitants située dans la grande agglomération parisienne. Ma ville possède une riche histoire en matière de politique d'intégration et d'interaction avec des communautés de diaspora. Et j'en profite pour saluer Carlos qui, à une époque, grande époque où j'étais maire, on a travaillé ensemble sur la communauté portugaise de ma ville, importante, mais avec les autres communautés aussi, puisque c'était, tout ça était en symbiose. J'ai perdu le fil. Mais c'est pas grave, je vais retrouver. Les acteurs de la société civile, les organisations de diaspora ont toujours joué un rôle très important dans ce processus. Et je voulais bien sûr faire cette petite aparté parce que dans mon expérience personnelle de maire, ça a été un enrichissement extraordinaire. Toutefois, il faut reconnaître qu'il existe encore de nombreux obstacles qui ne nous permettent pas de tirer le meilleur profit des avantages que représentent les flux migratoires. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Le principal est l'accès des migrants au marché du travail. Dans ce domaine, malheureusement, les migrants sont confrontés à un certain nombre d'obstacles juridiques et administratifs qui empêchent leur intégration harmonieuse dans la main-d'œuvre européenne et les rendent vulnérables à l'exploitation et à la discrimination. D'autres facteurs importants sont l'intégration des migrants dans la société d'accueil et leur participation à la vie culturelle et politique. Dans ces domaines, nous avons encore besoin de faire des progrès. Afin de pallier à ces obstacles, notre Assemblée a formulé une série de recommandations concrètes que nos États membres pourraient mettre en œuvre, notamment en améliorant la législation nationale, en facilitant l'accès des migrants au marché du travail, en développant des sociétés inclusives et en créant des conditions nécessaires à la participation pleine et active des migrants à tous les domaines de la vie. Ces recommandations sont contenues dans notre résolution 2175 de 2017 et je suis convaincu qu'ils vont grandement guider nos travaux. Durant notre conférence, nous allons nous concentrer sur quatre thèmes principaux: la participation démocratique de la diaspora, l'impact de la diaspora sur le développement des pays d'origine, la promotion du dialogue interculturel, le rôle de la diaspora dans les constructions des sociétés inclusives. Ces quatre thèmes pourraient également devenir les grands axes d'action du futur réseau. Et je me réjouis par avance de pouvoir suivre avec intérêt ces débats, les débats et les travaux du futur réseau. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui ici parce que nous croyons que les migrations représentent une opportunité de rendre nos sociétés plus fortes et mieux adaptées aux défis du monde d'aujourd'hui. Nous voulons que les migrations soit un facteur gagnant-gagnant pour les sociétés d'accueil et les sociétés d'origine. Nous voulons le faire ensemble, en étroite collaboration entre tous les acteurs nationaux, locaux, internationaux, ainsi que la société civile. Le futur réseau parlementaire sur les politiques relatives aux diasporas représente une plateforme institutionnelle pour échanger nos expériences. J'espère donc qu'il deviendra rapidement un véritable pôle international d'expertise en matière de diaspora en rassemblant les normes européennes élaborées par le Conseil de l'Europe ainsi que les expériences nationales et locales des États membres et partenaires de notre organisation. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur René Rouquet, vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. E agora tem a palavra o representante especial do secretário-geral do Conselho da Europa para as Migrações e Refugiados, Tomás Wojcik. Faz favor.
Mr. President of the Parliament of Portugal, Mr. Vice President of the Parliamentary Assembly, Mr. Director General of the International Organization for Migration, dear members of national parliaments, ladies and gentlemen, over the 70 years since the end of the Second World War, migration has steadily increased across the European continent. A number have migrated within Europe, while others have come to Europe from third countries. Some arrived as refugees, others left their home countries in search of better opportunities abroad. Regardless of the reason for their migration, many retain strong links with their homelands and a continuing interest in political, cultural, and societal developments there. Advances in technology have greatly facilitated the maintenance of such links. Countries of origin and of destination are growing, increasingly aware of what diasporas have to offer. As it has been already mentioned, home countries benefit from remittances sent to family by workers abroad and from the wider opportunities for investment and growth created by its nationals overseas. Host countries reap the rewards of diversity and the rejuvenation of workforces but motivated immigrants seeking to improve their lives. At the same time, the presence of large diasporas can cause tension within communities. Racial hatred and prejudice can lead to incidents of hate crime and violence. Diasporas can also be a source of tension in relations between home and destination states. Governments of the home country may encourage their nationals abroad to act or to vote in a way that coincides with national interests to the frustration of host country governments. Rights and freedoms accorded to migrants in destination countries, including in particular freedom of expression, may vex home countries' governments as attention is drawn to internal issues by nationals protesting abroad. Diaspora populations also have particular interests and needs of their own, which require promotion and protection. The opportunity to participate in political life in their home countries, host countries, or both. Protection against prejudice and discrimination on grounds of their national or ethnic origin. The possibility to access education, employment, and healthcare. The right to use and to teach their children their national languages. The freedom to continue their traditions and to practice their religions. A lack of opportunities and the failure of integration policies can leave members of diasporas isolated, impoverished, and vulnerable to radicalization. The challenge for Council of Europe member states is how to promote the integration of diasporas in their host countries by allowing them also to preserve their links with their countries of origin. Council of Europe standards and activities can provide assistance in meeting this challenge. Mr. Rouquet has already explained the important work being done by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to ensure
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et du respect des droits de la diaspora et plus particulièrement les recommandations de l'Assemblée parlementaire et résolutions qui ont souligné l'importance de la participation politique des migrants. La Convention européenne des droits de l'homme s'applique à tous ceux qui, au sein des territoires des pays membres du Conseil de l'Europe, sont concernés. Les droits qu'ils représentent doivent être garantis sans distinction d'origine ou autre distinction. Ceci implique aussi la liberté d'expression et la liberté de croyance. Le premier protocole à la Convention implique aussi le droit à l'éducation, à la participation au sein d'élections. Bien évidemment, ces droits ne sont pas absolus et les États peuvent les limiter s'il y a de bonnes raisons de le faire. Toutefois, imposer ces restrictions sur les droits dont peuvent bénéficier les diasporas peuvent justifier certaines restrictions face à la Cour européenne des droits de l'homme. La Convention est donc un outil important de protection de la diaspora contre la discrimination et pour demander la reconnaissance des droits qui sont considérés comme étant à l'essence même de leurs intérêts. La Commission contre le racisme et la tolérance écrit suit les cas de discrimination, de violence et de préjugés contre tous ceux qui pourraient être concernés dans les territoires du Conseil. Les diasporas sont souvent au cœur du travail de l'écrit qui est particulièrement significatif et pertinent en la matière. L'écrit produit des rapports et recommandations aux États membres sur le traitement adéquates de questions qu'ils reprennent dans les différentes activités de suivi, les politiques de recommandation générale s'adressent à des questions telles que le racisme et l'intolérance, essentielles pour l'intégration et les initiatives idoines. Le réseau interculturel des villes du Conseil de l'Europe peut aussi travailler sur des stratégies interculturelles intégrées pour essayer de tirer le meilleur de ces flux migratoires. D'autres instruments tels que la Charte sociale européenne, la Convention de la protection des minorités ou la protection des langues régionales ont un rôle important à jouer. La Convention cadre, par exemple, promeut l'égalité de tous ceux appartenant à des minorités dans leur droit de s'exprimer, de préserver, développer leur culture, religion, langues et traditions. À travers tous ces organes et instruments, nous voyons comment sont traités de manière adéquate les diasporas en Europe, mais en fait, il n'y a pas d'accent particulier tel que celui-ci. L'initiative d'établir un nouveau réseau parlementaire pour les politiques de diaspora arrive à point nommé pour permettre aux États d'échanger des idées, des exemples de bonnes pratiques en la matière. Les politiques de la diaspora sont nécessaires. L'expertise du Conseil de l'Europe avec les parlementaires nationaux et les associations de la diaspora peuvent, et je suis certain que ce sera le cas, promouvoir l'inclusion des diasporas dans les cités hôtes tout en protégeant leur droit à la différence. Je vous souhaite une conférence fructueuse et j'attends avec impatience de pouvoir coopérer avec le nouveau réseau pour lequel je pense qu'il y a un potentiel énorme.
Muito obrigado, senhor representante especial do Secretário-Geral do Conselho da Europa.
Merci beaucoup, monsieur le représentant spécial du secrétaire général du Conseil de l'Europe, monsieur Thomas Bocek. Nous allons faire une pause pendant quelques instants parce que nous en venons à la fin de notre session parlementaire. De la session d'ouverture. Dans quelques instants, nous allons reprendre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un travail fructueux pour les deux jours à venir.
Oui. Directement.
Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc reprendre notre réunion et je vais tout de suite passer, dans le cadre de notre contribution de la diaspora aux sociétés européennes, je vais passer la parole à Monsieur William Lassiswing, qui est le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Monsieur Swing, vous avez la parole.
Monsieur le vice-président, monsieur le représentant spécial du secrétaire général, excellences, messieurs et mesdames du Parlement, très éminents et honorables représentants des groupes qui sont représentés, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi que d'être ici et je me sens particulièrement honorée d'être parmi vous aujourd'hui et particulièrement encouragée par le thème que vous avez choisi. Vous vous penchez sur les questions des diasporas et de la contribution que celle-ci peut apporter dans la vie de nos sociétés. Je suis particulièrement heureux de pouvoir rencontrer des parlementaires ici. Nous ne passons pas suffisamment de temps avec des membres du Parlement, les représentants des parlements. Nous parlons avec des représentants des Nations Unies et autres organisations internationales, mais pas assez avec des maires qui doivent apporter l'abri, la sécurité, les possibilités d'emploi et très très peu de temps, en tout cas pas suffisamment du tout avec nos partenaires des ONG. Je souhaiterais d'abord vous féliciter d'avoir choisi ce thème et de prendre la décision de créer ce réseau qui va devenir particulièrement important, comme le dit mon collègue à l'instant. Cela a été déjà dit par le vice-président, nous vivons dans un monde qui est en pleine mobilité. Nous vivons dans un monde qui est marqué par une mobilité humaine qui n'a jamais eu d'exemple comparable dans le passé. Nous savons que 1,7 milliard de personnes sont concernées. Si on prend les chiffres de la migration, il s'agit de 44 millions. Tout ça va nous donner une population globale qui serait légèrement inférieure à celle de l'Indonésie, un petit peu plus importante que celle du Brésil. Avec un produit national brut qui serait en fait celui d'un membre de moyenne taille de l'Union européenne. Voilà un peu la tendance d'aujourd'hui et c'est une tendance qui ne va pas s'évanouir. Je reviens de Nigeria et de Libye et en fait ce qui se passe au Niger, c'est qu'on a une moyenne d'âge de 14. Dans les autres pays, il s'agit de 49. Et donc, sans être docteur en statistiques, vous comprendrez qu'il y a ces forces en jeu sur le terrain. Bien évidemment, il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter à ces déséquilibres démographiques. C'est ceux des différentes catastrophes naturelles, des désastres. Nous venons de constater ce qui vient de se passer dans les Caraïbes. Mais il y a aussi des désastres ou des catastrophes qui sont générées par l'homme. Il y a des conflits armés, il y en a 9 qui couvrent la partie occidentale de l'Afrique jusqu'à l'Himalaya, avec strictement aucun espoir de pouvoir trouver des solutions fructueuses pour aucun d'entre eux dans le court terme. J'espère que je n'ai pas raison, mais je pense que c'est bien le cas. Ce sont des facteurs qui vont inciter encore plus de gens à entamer le chemin de la migration. Beaucoup de migrants, finalement, entament ce parcours de manière organisée, mais 66 millions parmi eux sont obligés de quitter leur pays, et c'est un record absolu des temps modernes. Il y a ces technologies, il y a 3 millions de personnes en 2000 qui sont connectées à la technologie. Aujourd'hui, il s'agit de 4 milliards. C'est en comptant la communauté de Mark Zuckerberg, on arriverait à 7 milliards. Il y a donc cette technologie qui casse les frontières. Et finalement, je repars avec une société aérienne aujourd'hui, des gens qui peuvent me permettre de voyager rapidement et pour peu, pas cher. Donc il y a beaucoup de gens qui sont connectés à plus d'un pays. Excusez-moi de faire des références personnelles, mais ma propre famille finalement est répartie sur les 4 continents, les 4 points cardinaux. Je reviens de Cape Town pour le mariage de ma petite fille qui est le produit d'un mariage de mon fils qui est tombé amoureux d'une fille de Cape Town quand j'étais ambassadeur du temps de la libération de Monsieur Mandela. Et on voit que le reste de la famille est toujours là. Ma femme est de Malaisie où nous avons une maison, ma fille en Afghanistan, d'autres encore qui vivent à Manhattan mais qui sont d'origine africaine. Voilà pourquoi je vous dis tout cela. Simplement pour vous expliquer que ça devient de plus en plus la norme que l'exception, bien que je veuille bien admettre que je sois un cas un petit peu atypique. Il y a plus de liens familiaux à travers les frontières qui perdurent. Il y a plus de gens qui ont des doubles nationalités. Ma propre petite fille en a 3. Il y en a d'autres qui en ont autant ou plus. Et donc, la diaspora nous offre la possibilité d'avoir ce sentiment d'appartenance à plus d'un pays à la fois. Et il n'y a absolument aucune contradiction à être totalement et parfaitement intégré dans une société en Europe et particulièrement actif quand on revient chez soi en tant que membre ou représentant d'une diaspora active. Donc c'est très, très intéressant, c'est très encourageant. à mon âge canonique, j'ai vécu plus à l'extérieur des États-Unis qu'à l'intérieur. Je suis tout aussi américain que toujours. Mais finalement, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter la vie dans différents continents, trois, y compris un long parcours en Afrique. Alors, permettez-moi maintenant peut-être de ne pas me laisser emporter. Ça, c'est juste l'introduction, mais il y a une ou deux petites choses que je souhaiterais aborder avant d'arriver au vif du sujet. C'était assez intéressant d'écouter les intervenants précédents. Vous avez fait un point tout à fait remarquable. J'aurais aimé pouvoir reprendre vos données, c'était très utile, mais on a discuté d'économie, de l'épargne, de certains flux financiers. Mais quelque chose que j'ai évoqué, 600 milliards de dollars par an en termes d'envoi de fonds, ce qui représente deux fois toute l'aide étrangère en termes de flux financiers et à peu près autant que ce qui serait le résumé de l'investissement étranger dans sa totalité. Je parlerai après de la manière dont ces transferts se font et les coûts de ces transferts. Il y a du capital humain, financier, la motivation, des compétences, des savoirs, des élans. Et voilà un peu la situation aujourd'hui. Donc, en fait, le stéréotype le plus habituel des migrants, c'est de dire, voilà, ils arrivent ici pour profiter de nos sécurités sociales et autres services à titre gracieux. C'est peut-être vrai, mais posons-nous une autre question, qui serait la suivante. Est-ce que nous voulons des migrants qui ne soient pas en bonne santé, ou est-ce qu'on veut leur donner accès justement à ces soins et à cette sécurité sociale? Est-ce que l'on veut des galopins qui courent partout, ou est-ce qu'on veut des gens qui ou des enfants qui vont grandir pour pouvoir porter leur contribution au pays? Il y a le capital culturel qui a été évoqué déjà par certains de mes collègues, les contextes culturels importants qui vont créer des sociétés plus novatrices et plus créatrices, plus imaginatives. Donc on est en train de réfléchir à des politiques, à des institutions pour essayer d'organiser au mieux les questions de la diaspora. Parlez-moi et je vous dirai que la diaspora, c'est l'aspect le plus négligé par tous les gouvernements dans le cadre des politiques de migration. C'est une ressource et nous ne sommes pas en train de capitaliser sur cette ressource. Au fil des ans, de plus en plus de gouvernements ont créé des mini-désastres de la diaspora. À Rabat, par exemple, je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le ministère des Marocains de l'étranger. J'ai fait une conférence à Genève en 2013 dans laquelle 32 gouvernements ont envoyé ce qu'ils appelaient des ministres de la diaspora. C'était tout à fait nouveau à l'époque. Il y en a plus aujourd'hui. Je pense que c'est une tendance qui va se confirmer. Donc la déclaration de New York, acquise en septembre dernier, vous démontre que les migrants sont perçus et reconnus aujourd'hui comme étant un élément clé du développement à venir. Ça, c'était ma petite introduction un petit peu longue. Il y a trois points que j'aimerais partager avec vous. J'aime les allitérations parce qu'elles sont faciles à répéter. Et je dirais en anglais les trois E, c'est-à-dire engage, enable et empower, c'est-à-dire permettre, faciliter, susciter. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, tendre la main vers eux, dans les pays d'origine, avec des réseaux qui permettent au retour de membres des communautés internationales, des professeurs, des enseignants, certains qui peuvent ne rentrer que pendant de courtes vacances pour peut-être enseigner ou travailler dans des hôpitaux. Pays de destination, nous avons besoin de poursuivre ce travail à travers les consulats, les ambassades, pour essayer de favoriser la création de ressources. Aucun autre pays n'a besoin de faire mieux que ce qui se passe au niveau des Philippines. Aucun ambassadeur de Philippines ne peut survivre si jamais il ne considère pas la protection des Philippins à l'étranger comme étant la priorité numéro un. Et je crois que nous devrions tous faire la même chose. Je pense que nous pouvons tous réfléchir à la diaspora en faisant des dispositions dans nos droits constitutionnels, dans nos textes de loi, certains pays européens l'ont fait, qu'il y ait possibilité pour eux de siéger au Parlement, leur donner le sens qu'ils sont toujours membres de leur communauté de pays d'origine et qu'ils ont un rôle à jouer. Deuxièmement, enable, c'est-à-dire permettre. Les communautés transnationales permettent au développement de se poursuivre dans la mesure où on leur donne la possibilité de considérer qu'elles sont capables d'acquérir les ressources et les compétences nécessaires, c'est-à-dire l'accès aux services publics, garantir le respect de leurs propres droits de l'homme, en échange du respect par les éléments de la diaspora du droit local. C'est très important. Je suis très heureux du thème que vous avez choisi aujourd'hui parce que je pense que si jamais on va changer le récit ou la narration de ce qui se passe autour de la diaspora, il faut le faire d'une manière qui soit moins empoisonnée. La diaspora ou la migration est perçue maintenant comme étant quelque chose de négatif. Et je crois qu'il faudrait essayer de faire une lecture plus précise de la migration, des flux migratoires. La migration a toujours été, de manière historique, quelque chose de positif, un facteur positif. Si tous les migrants, à l'heure actuelle, de la ville de New York devaient quitter la ville pour faire leur propre ville, eh bien, ça serait la troisième ville la plus importante des États-Unis, dont on ne peut que reconnaître qu'ils font des contributions remarquables. Nous travaillons pour essayer de changer ce discours ou cette narration pour les protéger, pour leur permettre de faire les contributions qu'ils souhaitent faire. Nous travaillons avec les gouvernements de manière diverse et variée pour essayer de réduire le coût social de la migration. Par exemple, le recrutement à caractère éthique. Nous avons quelque chose qui s'appelle le recrutement international ou le service national de recrutement d'étrangers. Il y a beaucoup de ces agences-là qui travaillent d'une manière inadéquate. Prenez une jeune femme, par exemple, qui va demander à être employée dans un autre pays en qualité de domestique. Leurs passeports sont pris et elles sont envoyées dans des bordels. Un jeune homme peut partir, ils peuvent effectivement avoir de bons salaires et la première année, tout le salaire revient à l'agence de la migration. En réalité, les migrants ne devraient pas changer, ça devrait être les sociétés qui payent. Deuxièmement, il faut réduire les coûts de transfert des flux financiers vers les pays, particulièrement vrai en Afrique où ça peut être 15 à 20% de cet argent durement gagné simplement pour le faire parvenir dans les pays. On a un accord avec l'Union postale en Suisse d'utiliser les services postaux pour envoyer l'argent à la maison à un tarif de moins de 5% et vraisemblablement autour de 3% pour essayer de favoriser ces politiques de transfert de flux financiers de migration. Il est évident que si jamais nous n'allons pas réussir, si jamais nous n'avons pas de bonne politique d'intégration dans les pays de réception, dans les pays d'accueil, pour s'assurer d'une bonne intégration dans les pays et les économies. Nous avons besoin de soutien pour les migrants, pour atteindre des compétences supplémentaires, pour permettre l'inclusion sociale et éviter toute forme de marginalisation. La plupart des attaques terroristes, des attentats récents, Paris, Nice, Bruxelles, San Bernardino en Californie ou en Floride, Orlando, ont tous été cultivés dans le terreau local et c'est le résultat d'un manquement au niveau de l'intégration. Réveillons-nous, il est temps de réaliser que les gens marginalisés peuvent et doivent faire des choses autres que de nous faire du mal. Troisièmement, il est très important que l'on autonomise les migrants en leur donnant la capacité d'établir leur propre plan d'action, leur propre ligne de priorité. Nous pouvons aider les gouvernements à plusieurs niveaux. Nous avons des missions d'ambassadeurs pour essayer de ramener la diaspora dans les pays d'origine, faire le point de ce qui se passe et voir quelles sont les possibilités d'investissement. Nous avons un projet qui se passe entre les autorités du Maroc et certaines institutions financières belges pour faciliter l'investissement direct. En Géorgie, nous facilitons l'action des nouvelles entreprises issues de la diaspora. Nous apportons des possibilités, des informations sur les possibilités de l'économie et surtout l'acquisition d'expertise. En Moldova, nous avons quelque chose qui s'appelle le programme des diasporas qui a été lancé en mai de cette année pour essayer de repérer des gens particulièrement qualifiés qui, au bout de 2 ans à l'étranger, veulent travailler avec des représentants gouvernementaux pour essayer de soutenir les politiques de développement. Donc, connecter les diasporas pour le développement, on a un programme aux Pays-Bas avec des membres de la diaspora professionnelle en lien avec les institutions de leur pays. J'ai parlé à des groupes représentants de la diaspora il y a quelques années à La Haye. 300 000 personnes de Suriname vivent aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il y en a encore plus, mais c'est une possibilité qui est idéale pour les inciter à participer au développement du Suriname. Les ONG peuvent être particulièrement utiles en temps de crise, notamment pour certains groupes de diaspora auxquels je pense. Il y a un an, 120 000 Éthiopiens étaient rejetés des pays du Golfe. On nous a demandé d'essayer de les aider pour essayer de trouver des repères à la maison, ou chez eux, dans leur pays de départ, où il n'y avait pas de possibilité d'emploi. Nous avons reçu des centaines de milliers de dollars des groupes de la diaspora éthiopienne des États-Unis. Et donc, ils sont là en temps de crise, en temps de besoin. Et il y a évidemment des informations nécessaires à échanger sur les services d'investissement et des choses qui permettent aux migrants d'accéder à des informations de base qui leur sont nécessaires. Voilà donc la façon dont nous pouvons contribuer. Permettez-moi de partager avec vous maintenant, en guise de conclusion, deux pensées. Il y a une étude qui vient d'être publiée par un de nos partenaires, le McKinsey Global Institute, qui donne quelques statistiques. Au cours des 40 dernières années, le nombre de migrants internationaux en chiffre global n'a pas beaucoup changé. Il s'agit de 3,5% de la population mondiale à peu près, mais l'étude démontre qu'ils ont produit 9% du produit national brut, ce qui est 4% de plus que ce qu'ils auraient produit s'ils étaient restés dans leur foyer. Et ça, je pense, est une statistique particulièrement significative en matière de l'évaluation de ces politiques. Et enfin, ce phénomène humain, la migration, qui n'est pas un problème à résoudre, mais plutôt une réalité humaine qu'il faut essayer de gérer de manière responsable et humaine. Et c'est un peu le sens de cette conférence. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. J'ai un certain nombre d'orateurs d'inscrits, donc je peux bien sûr reprendre les inscriptions. Et le premier orateur inscrit est Mme Moncaza, présidente de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise en Belgique. Vous avez la parole, madame.
Merci, Monsieur le Président. J'interviens pour présenter un livre dans lequel il y a 129 femmes de la diaspora congolaise de Belgique qui s'expriment. Elles s'expriment de différentes manières. Elles s'expriment par les textes. Il y en a 77 qui ont écrit des textes. Elles s'expriment par les photos des activités qu'elles mènent dans leurs associations. Dans ce livre qui sera présenté, ça c'est la couverture du livre, hein. Donc le livre qui sera présenté le 15, donc le vendredi, de vendredi en 8 jours, dans ce livre, qu'est-ce qu'on trouve? Les femmes ont réussi à faire une clarification de leurs compétences, ces femmes. Alors, c'est un livre qui peut être considéré comme une recherche-action et dans lequel nous avons réussi à mettre en lumière, les femmes ont réussi à mettre en lumière leurs compétences individuelles. C'est un livre qui peut être utilisé par des responsables et des décideurs qui sont chargés des problèmes de l'emploi, hein, à condition bien sûr qu'ils fassent une comparaison entre ces compétences que les femmes ont clarifiées dans ce livre et les besoins nécessaires du marché de l'emploi. Il y a un autre point qui est très intéressant dans ce livre, c'est que les femmes, il y a des statistiques. Parce que, comme je vous dis, que ça peut être considéré comme une recherche-action, des questions ont été posées aux femmes, notamment la question sur les valeurs. Nous savons combien c'est important la question des valeurs pour le vivre ensemble et pour la communication dans la société. Et il y a des statistiques sur ce que les femmes considèrent comme les trois premières valeurs selon elles. Enfin, je voudrais terminer en disant que dans ce livre-là, nous trouvons également des compétences qu'on peut appeler des compétences comportementales. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre dans lequel les femmes qui ont écrit dans ce chapitre-là, les femmes expliquent la manière dont elles essayent de faire face aux situations existentielles, aux situations tragiques, la perte d'un enfant, l'handicap, etc. Donc moi, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ce livre sera présenté à Bruxelles. Pour les personnes qui sont à Bruxelles, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir rencontrer ces femmes qui sont de la diaspora, qui ont des compétences, qui font des choses et qui ne demandent pas autre chose que à mettre les compétences au service des sociétés d'accueil et des sociétés d'origine. Je vous remercie.
Merci, Madame Mancaza. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Raymond Xeri, qui est président d'European Two Goods. Monsieur Xeri, je vous ai la parole.
Yes, thank you, Chair. Thank you, Assembly.
Merci. Je représente les Européens de par le monde. Et il s'agit de la seule organisation la plus grande qui représente environ 350 millions d'Européens qui vivent de par le monde, de l'Australie au Canada, en fait dans tous les pays du monde. Cette organisation a son siège à Bruxelles. Et nous sommes dotés d'un ensemble de principes et nous avons également une série de tâches pour faire en sorte que les questions de diaspora européen aboutissent à la création d'une charte pour les Européens qui vivent à l'étranger. Et donc ce sera l'étape suivante après cette initiative ici présente du Conseil de l'Europe, une excellente initiative. Et je voudrais féliciter le Conseil de l'Europe, le Parlement européen d'avoir su prendre une telle initiative. Il est très important que nous sachions reconnaître l'importance cruciale des diasporas, que ce soit dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Et nous lançons un appel aux pays européens qui n'ont pas de membres dans notre association européenne dans le monde. Nous les invitons à se mettre en contact avec nous de telle sorte que leur diaspora puisse être représentée dans notre assemblée. Merci beaucoup.
Merci, M. Xeri. Ben, votre appel est entendu, je pense, puisque nous sommes nombreux ici pour vous écouter. La parole est à M. Jamal Wayel, qui est membre du Conseil national de la Palestine. Vous avez la parole, monsieur. S'il y a d'autres orateurs qui veulent s'inscrire, je prends les autres. Voilà. Vous avez la parole, monsieur
Oyaï. Permettez-moi de vous dire tout d'abord que je viens de Palestine et que c'est le tout dernier pays au monde aujourd'hui qui continue de vivre sous joug de l'occupation israélienne. Permettez-moi d'abord de remercier le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Sénat et le Portugal et ses autorités d'avoir organisé cette réunion autour de la diaspora. Et comme l'ont dit certains intervenants avant moi et certains de mes collègues et amis qui ont parlé des différents instruments nécessaires pour gérer ce problème, je ne veux pas me répéter, je voudrais simplement parler de quelque chose de très précis et spécifique. Il y a plus de 6,5 millions de Palestiniens qui sont en diaspora, qui sont sur les chemins de la migration, et je le voulais depuis 1948. Et la cause en est l'occupation israélienne et ses manifestations. Le membre de la diaspora palestinienne a joué des rôles très importants à travers les réseaux économiques, à travers les différents lettrés qui émanent de Palestine. Il y a un rôle très important à jouer par les migrants et par les membres de la diaspora palestinienne en Europe, en Amérique, dans les pays arabes et un peu partout. J'aimerais me concentrer sur quelque chose de très important pour le Conseil de l'Europe. Il s'agit donc de la gestion de ces flux migratoires, et il faudrait essayer que ça se passe aussi dans le pays d'origine, qu'il s'agisse de causes de catastrophes naturelles, de guerres, mais aussi de l'occupation. J'insiste sur l'occupation qui est l'une des causes les plus importantes de la migration et des diasporas dans le monde. Il est très important que l'on lutte contre cette occupation israélienne qui fait partie des dernières occupations du monde qui finalement continue de nous oppresser détruire la vie de plus de 6 millions de gens. Nous avons besoin, nous, les Palestiniens, d'aider l'Europe, et plus particulièrement en Europe, et plus particulièrement ceux qui appartiennent à l'islam et qui se sentent représentés et qui parlent de la question palestinienne. Nous exprimons notre solidarité avec tous les migrants dans le monde. Il faut trouver des solutions pour essayer de mettre un point final à cette occupation et de faire reconnaître l'État de la Palestine comme État à part entière. Nous remercions de tout cœur le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire et les autorités portugaises de nous convier à cette réunion ici. Merci.
La parole est à Monsieur Kais Yazadine, membre du Parlement de Jordanie.
Je sais pas, non ? Thank you, ladies and gentlemen.
Merci, mesdames et messieurs, de me donner la possibilité d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens d'un pays, la Jordanie, dans lequel 30 à 35% de personnes et de citoyens qui sont sur ce territoire national sont des étrangers qui ont été mis sur les roues de la migration à cause de guerres. Je voudrais que l'on se penche sur les raisons derrière l'immigration, et plus particulièrement dans la partie du monde auquel nous appartenons. Il ne s'agit certainement pas de migration à caractère économique ou financière. J'aimerais me faire l'écho de ce que disait le collègue palestinien en disant que, par exemple, la raison principale de la migration en Jordanie, c'était précisément l'émigration palestinienne qui elle-même émanait de l'occupation israélienne. C'était une des raisons principales de la migration dans mon pays, la Jordanie. Deuxième grande raison, c'est ce qui s'est passé chez nos frères syriens, c'est la guerre. Donc je crois qu'il est très important que l'on établisse des distinctions sur les raisons de la migration et sur la façon dont celles-ci se sont profilées. En Europe, je pense que le caractère économique ou financier est prépondérant. Dans notre partie du monde, les gens essayent de se battre et essayent de fuir leur pays d'origine pour aller vers d'autres pays. Par exemple, un des résultats corollaires de l'occupation israélienne est à l'origine de la plupart des guerres dans notre continent. C'est très important, c'est un dialogue très constructif, et il faut essayer d'être le plus équilibré possible entre l'idée d'intégration des migrants dans la communauté d'accueil et les liens avec le pays d'origine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est absolument essentiel pour nous de considérer la diaspora dans des pays tels que la Jordanie, par exemple, dans lesquels on peut encore essayer de trouver un juste équilibre entre les gens qui ont des liens avec leur pays d'origine et l'intégration avec le pays d'accueil, c'est-à-dire la Jordanie et la société qui les accueille de manière générale. Permettez-moi à nouveau de réitérer la condamnation que je fais de l'occupation israélienne et bien évidemment nous demandons que ceci soit repris dans la déclaration finale et que cela soit considéré comme étant un des résultats principaux de la migration et des flux migratoires palestiniens des diasporas palestiniennes à travers le monde. Merci.
Merci Monsieur Yazadine. La parole est à Madame Amina Khalid, qui est vice-présidente du réseau de la diaspora africaine des jeunes en Europe.
Good morning.
Bonjour. Il y a juste une petite correction que j'aimerais apporter ici. Je suis une ancienne présidente de la DIL et aujourd'hui je travaille pour une organisation internationale qui s'appelle l'Initiative des Changements, qui est active dans 65 pays à travers le monde, y compris les initiatives somaliennes pour la démocratie et le dialogue. Permettez-moi d'abord de remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé à la création de ce dialogue qui s'entame aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire où le thème a revêtu la même importance. Nous vivons dans un monde d'incertitude et d'insécurité pour les humains. Je suis une ancienne réfugiée et à l'heure actuelle, je vis à Londres. J'ai dû quitter mon pays d'origine il y a quelques 20 ans. Et tout ce qui a été dit à cette tribune aujourd'hui est quelque chose qui résonne particulièrement et qui fait écho à mon expérience dans mon cœur, l'expérience de la discrimination, de la marginalisation, du fait d'être déconnecté à la fois du pays hôte et du pays d'origine. C'est une expérience que j'ai faite, le racisme auquel j'ai dû faire face au début de ma vie, quand je n'avais que 13 ans et échappé à un conflit civil armé dans mon pays, arrivé dans un pays où je demande l'abri et la sécurité, est mon expérience personnelle. Et donc j'attends avec impatience la possibilité de voir émerger des expériences nouvelles pour ceux qui sont obligés de quitter leur foyer. Il y a quelque chose qui dit « Personne ne quitte sa maison, son chez-soi, à moins que sa maison ou son chez-soi ne devienne la gueule d'un requin. J'ai fui mon pays pour des raisons de conflits internationaux, mais je suis très heureuse de dire que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est devenue ma nouvelle maison. C'est une nouvelle maison à laquelle j'ai apporté une petite pierre pour participer à sa construction. Nous avons travaillé au sein du pays d'accueil et du pays d'origine. Je pense que c'est la seule façon d'aller de l'avant. Je pense qu'avec le nouveau fil narratif qu'il faut faire naître aujourd'hui et avec ce que l'on a appelé la nécessité de reconnaître certaines réalités toxiques, il est très important que l'on travaille sur ce chapitre-là et que l'on s'écarte de cette habitude de considérer les réfugiés comme étant des statistiques. Il faudrait commencer à les traiter comme des êtres humains parce que c'est essentiel pour le respect, la notion de respect. Et il faut aussi comprendre et savoir que personne ne peut faire ce travail-là tout seul. On est obligé de travailler de concert et pour que ça se passe, on est obligé d'écouter avec nos cœurs.
Merci Madame Khalid. La parole est à Monsieur Aubryan, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement d'Irlande.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue cette possibilité qui nous est offerte aujourd'hui de participer à cette tribune. Du point de vue de l'Irlande, nous avons une diaspora de 70 millions de personnes à travers le monde. C'est une proportion la plus importante compte tenu de la population dans le pays. Ça a été évoqué dans un certain nombre de pays, Palestine, Jordanie, etc., dû à des persécutions historiques, mais aussi à des raisons économiques. Donc un pays tel que l'Amérique, 35 millions de personnes se réclament d'une origine irlandaise. Je vois avec plaisir M. Swing ici. Vous le savez, à New York, il y a beaucoup d'Irlandais à Manhattan qui ont contribué de manière positive à la marche de la société. Je suis particulièrement attentif et admiratif de ce qui a été dit par M. Swing à propos du mot migration qui devient un gros mot. Je suis d'accord, on a des rôles particulièrement importants à jouer au niveau des diasporas. Et il y a deux choses qu'il faut faire. Premièrement, l'Union européenne doit essayer de revoir les accords de migration au niveau qu'il s'agisse de la Turquie, de la Libye, la situation, les conditions dans lesquelles se retrouvent les migrants à travers toute la zone méditerranéenne. Je sais que dans la partie sud de la Méditerranée, il y a des pressions très importantes, mais aussi aux frontières. Et juste aujourd'hui, un rapport a été émis à Bruxelles des centres de rétention, et notamment concernant la population libyenne. Donc il faut que l'Europe soit un endroit d'accueil positif. Il faut être très prudent quand on fait des accords de tiers pays, comme celui avec l'Afghanistan, que l'on s'assure que le respect des droits de l'homme de ces pays avec lesquels nous signons des accords soit effectivement acté. Nous savons qu'il y a beaucoup de démarches qui sont prises bona fide. Il y a beaucoup de citoyens déplacés qui se trouvent sur les routes de nos propres pays européens. J'aimerais revenir sur ce que disait le président du Parlement portugais qui parlait des défis du Brexit. Il y aura des problèmes en Irlande. Nous aurons le nombre le plus important de citoyens européens à l'extérieur de l'Irlande. On a parlé du Portugal. C'est la même situation que l'Irlande avec une grosse diaspora en Grande-Bretagne. Il faut s'assurer que nos citoyens et nos collègues vont pouvoir être protégés, y compris par les Anglais. Ce qui se passe de Grande-Bretagne à l'heure actuelle est d'essayer de ne pas faire la réciproque des droits qui sont accordés pour les citoyens et d'essayer de créer un autre statut de citoyenneté. Donc il est très important, la diaspora doit se concentrer sur ces questions et dans mon propre pays, il est évident que nous considérons que la diaspora est très importante. Je dirais qu'en Irlande, notre nouvelle communauté de migrants à travers l'Union européenne et à l'extérieur représente environ 10% de notre population et ont contribué de manière plus que positive au développement de notre pays, à la diversité au sein de celui-ci. Merci.
Merci, Monsieur O'Brien. La parole est à Monsieur Moubdi du Parlement du Maroc.
Merci, Monsieur le Président. Je dois remercier de mon propre et profond cœur toutes et tous ceux qui ont pris l'initiative de penser au lancement et à prendre l'initiative de ce réseau pour débattre d'un thème si important qui nous préoccupe tous. Aujourd'hui, j'ai eu le cœur réchauffé à partir des exposés que nous venons d'écouter et d'entendre ce matin. Un sujet important qui préoccupe non pas seulement les pays du Sud, qui sont les pays d'origine, mais en fait, il y a aussi l'immigration nord-nord et nord-sud et sud-sud. Donc nous sommes préoccupés tous par un mouvement humanitaire auquel on doit donner une attention particulière. D'abord, il y a les problèmes d'intégration. J'aurais aimé avoir avec nous, parmi les conférenciers, des responsables ou des experts des pays d'origine ou des pays de transit qui vivent aujourd'hui les départs de ces émigrés et le retour dans leur pays d'origine. Ce sont des expériences à écouter et j'espère voir dans les futures rencontres un autre son de cloche. Ça ne peut être que bénéfique et enrichissant pour notre débat. Et je crois que les questions qui ont été débattues et présentées ce matin sont très intéressantes. Et je m'accroche à une seule chose, c'est que l'immigration est tout à fait positive. Il faut la prendre de ce côté-là. Moi, je suis maire d'une petite ville au Maroc qui a une population assez importante en Italie et en Espagne. Je leur rends souvent visite dans ces pays-là. Ils se sont intégrés. Ils apportent beaucoup de choses à l'économie, au PNB, mais ils trouvent des difficultés d'intégration dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale de ces pays-là. Je n'ignore pas l'impact très positif de ces émigrés dans notre pays, leur apport financier. Certes, il y a beaucoup de difficultés de transfert de ces fonds-là, mais ils apportent beaucoup de bénéfices à notre pays. Et je crois que ce sont des questions qu'on aura le temps et la possibilité de débattre à partir de réalités que nous sommes en train de vivre. Je vous remercie encore une fois. Le thème est très important et les allocutions de ce matin m'ont donné beaucoup d'espoir pour contourner et pour appréhender ce sujet qui, il faut le rendre positif aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Moubdi. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs qui veulent s'inscrire? Alors, oui, Monsieur Talat. Il n'y a pas d'autres? Alors, Monsieur Talat, vous êtes membre du Parlement d'Égypte, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci de cette invitation. Je suis heureux de dire que nous, en Égypte, nous intéressons beaucoup aux migrants, à la diaspora. Nous avons un régime spécial pour eux. La Constitution elle-même prend en considération dûment. Nous avons des représentants au sein du Parlement égyptien pour les migrants. Mais nous devons faire face à des défis absolument considérables. Il y a beaucoup de problèmes. D'abord, ce qui se passe en Libye et en Irak. En Égypte, il y avait des travailleurs qui représentaient le chiffre de 5 millions pour la Libye. En Irak, pareil. Donc, ça représente des flux très importants. Ceux qui travaillent à l'étranger représentent environ 17 milliards de livres égyptiennes, ce qui est un chiffre considérable. Mais j'insiste pour dire qu'il y a des défis particulièrement importants dans les phases à venir pour essayer de faire face à ce problème au niveau mondial. Les chiffres de croissance dans les pays d'immigration sont en train de s'effondrer. Et l'effondrement en question va aboutir à des problèmes considérables et va pousser à des gens qui sont à l'étranger, finalement, de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations. Et on risque de les discriminer, de ne pas leur donner accès à l'éducation. En fait, cette espèce de dégradation de la société va certainement créer des problèmes considérables sur les flux migratoires. Nous voyons un peu ce qui se passe au niveau des pays d'accueil. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre la survenue potentielle de gros problèmes. Ensuite, le développement technologique que nous connaissons aujourd'hui qui effectivement crée aussi des césures et incite finalement tout le monde à réfléchir à ce qui se passe au niveau de la deuxième génération qui n'arrive pas à trouver de possibilités d'emploi, donc de gros taux de chômage. Il est très important qu'il y ait une organisation qui crée le lien entre les pays d'origine et les pays d'accueil et un troisième pays qui est un pays qui pourrait être pays avec lequel il y a des transactions. Il est très important, nous avons entendu un représentant de la Palestine, j'ai écouté mon collègue de Jordanie. Évidemment, nous condamnons fortement l'occupation israélienne qui est à l'origine de flux migratoires extrêmement importants de Palestiniens d'une façon absolument inhumaine et incontrôlée, et c'est la raison pour laquelle nous condamnons cette occupation. Il faut absolument travailler sur la question palestinienne et sur le fait que cette conférence insiste bien sur la nécessité d'œuvrer à trouver une solution parce que c'est une des parties de la réponse au problème de la migration.
D'autres orateurs ? Je ne vois pas. Non ? Monsieur Couscous, c'est ça ? Vous avez la membre du Parlement du Maroc.
Choukran Sid Raïs.
Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi d'abord de remercier l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'organiser cette réunion, qui est une très bonne opportunité pour essayer de renforcer le dialogue Nord-Sud. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Nous avons besoin de dialogue international autour de cette question qui est celle de la diaspora. Je pense qu'il est important de ne pas s'arrêter à ce qui a déjà été dit, nos différents amis parlementaires. Je voudrais peut-être simplement parler de certaines pratiques que mon pays, le Maroc, a employées pour essayer de renforcer la participation démocratique pour la communauté de la migration marocaine à l'étranger. Il y a un nouveau texte constitutionnel qui est en réalité une nouvelle motivation pour essayer de réunir les forces des Marocains de la diaspora de l'étranger, le tout sur des programmes au long cours. Le gouvernement a réfléchi à ces différentes obligations constitutionnelles qui doivent permettre de mettre en œuvre des politiques ambitieuses qui devrait permettre de servir la cause et les intérêts des migrants dans le monde. C'est une stratégie qui, comme cela a été dit par Monsieur le directeur général l'organisation du bureau de la migration, il faut qu'il y ait un ministère de tutelle spécialisé qui puisse se pencher sur les questions afférentes à la migration. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces stratégies et sur les 14 recommandations qui sont incluses dans cette stratégie. Je voudrais simplement insister sur le fait que les Marocains dans le monde aujourd'hui sont des gens qui participent avec force, avec efficacité à la prise de décisions politiques. Il s'agisse de décisions d'ailleurs au niveau législatif que à tous les autres niveaux de la vie, de l'économie des différents pays concernés. Il y a donc ce corpus de textes constitutionnels, comme cela a été évoqué par le directeur général, qui s'applique au niveau national et qui permettent la rationalisation des rapports avec les Marocains de la diaspora, leur permettre d'ailleurs de siéger dans les parlements et d'avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a énormément de défis au niveau de l'économie qui peuvent se résoudre en adoptant les bonnes pratiques vis-à-vis de la migration. J'aimerais aussi revenir, mais un petit peu plus tard, sur différentes initiatives au Maroc.
Merci beaucoup, Monsieur Couscous. La parole est à Monsieur Gamito Antonio, qui est directeur exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Monsieur Gamito, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Rouquet. Comme je suis national du Portugal, je vais parler en portugais, si vous ne dérangez pas. Gostaria de, antes de mais...
Avant toute chose, je voudrais saluer l'initiative prise par la PCE et par l'Assemblée de la République portugaise, à savoir le lancement de ce réseau sur les politiques relatives aux diasporas. Le Portugal a une longue histoire dans ce domaine. Il a accompli beaucoup de travail également dans ce domaine et remporté quelques succès. Je suis moi-même directeur exécutif du Centre Nord-Sud à Lisbonne, Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, et je m'enorgueillis du travail que nous menons. Un travail global. Monsieur Lacy Swing a indiqué un chemin à emprunter. Et je suis d'accord avec lui. Il a parlé des trois E en anglais, engage, enable and empower, ou associer, permettre et autonomiser. Et dans la mesure de nos possibilités, c'est ce que nous faisons. Nous le faisons par le biais de mécanismes de plaidoyer, par un travail de sensibilisation. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut davantage. Et j'aimerais, si je puis me le permettre, que cette conférence ne concentre pas exclusivement sur l'Europe, car la migration n'est pas seulement du sud vers le nord, elle est aussi du nord vers le sud et du sud vers le sud. Et j'aimerais donc qu'on ne l'oublie pas au cours de ce débat. À mon avis, et peut-être que Monsieur Lacy Swing pourra abonder dans mon sens, le nombre ou les chiffres des mouvements migratoires sud-sud sont supérieurs aux chiffres sud-nord. Et donc, ce réseau parlementaire qui naît dans le giron du Conseil de l'Europe est très important pour fomenter la création d'autres réseaux parlementaires. Je sais que le représentant du secrétaire général du Conseil de l'Europe y travaille et se penche sur ces questions, notamment l'une qui est chère à mon cœur, c'est-à-dire la question des mineurs non accompagnés. Et les migrations ne sont pas seulement le fait de guerre, de questions de santé, de questions d'économie ou d'absence d'intégration sociale. Il y a des conséquences très graves dans ce domaine, et l'une des plus graves, à mon sens, ce sont les mineurs qui voyagent seuls. Et donc, par le biais de la la sensibilisation et du plaidoyer, nous voulons attirer l'attention sur ces questions. C'est pourquoi l'année dernière, Madame Laura Papp, directrice de l'ONG grecque Metadraci, a reçu le prix Nord-Sud dans cette salle de la main du président de la République portugaise. Enfin, j'aimerais adresser un mot à tous les parlementaires qui se trouvent ici et qui viennent d'Europe et du pourtour de la Méditerranée. Votre présence ici est capitale. Le centre Nord-Sud est le fruit d'un accord partiel et nous voyons cette situation de la façon suivante. À notre sens, le travail des parlements est essentiel pour que nous puissions contribuer à résoudre ce problème qui va perdurer au cours des années qui viennent, comme le disait encore une fois Monsieur Lacey Swing. Mais à travers les réseaux parlementaires, nous devons faire valoir les approches ascendantes de la société civile qui sont capitales pour résoudre ce problème. Merci.
Merci, M. Gavito. La parole est à Mme Cavadia Ioneta, la présidente de la délégation nationale de Grèce.
Thank you, Mr. Chair.
Merci. Comme vous le disiez, je viens de Grèce. Et en Grèce, on considère la question de migration et de diaspora comme particulièrement importante. Ces situations vont perdurer. C'est une situation importante. Il faut essayer de la traiter de manière humaine et avec compassion dans le respect des dispositions du droit international et des conventions. Il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit d'un principe. Mes très chers collègues de l'Union européenne, nous avons du matériau contenu des crises au Moyen-Orient et des guerres qui en découlent. Je crois qu'il est de notoriété publique que la Grèce aujourd'hui, mon pays, a fait plus que sa propre part pour essayer de faire face aux problèmes, compte tenu de sa géographie, mais aussi dû à la détermination de son gouvernement et la solidarité de ses peuples. Dans un pays qui se trouve dans une crise financière profonde, et ce depuis plus de 7 ans, il est très difficile de faire face seul à ses obligations, cette tâche énorme. Les gens ne vont pas recevoir la possibilité de revoyager dans le pays de leur choix. Ils se trouvent bloqués en Grèce à la place du pays de leur choix. L'accord Grèce-Turquie n'est pas fonctionnel compte tenu des clauses de relocalisation n'a jamais été mise en œuvre. Nous n'apprenons jamais suffisamment de nos erreurs. Je pense qu'il est très important de faire le point. Au cours du sommet sud-africain, compte tenu de la crise des réfugiés, il a été décidé prendre des chemins qui sont des chemins qui ne vont pas dans le bon sens. Le droit humain dans certains pays ne s'applique pas. Les réfugiés sont gardés dans des camps en Nigeria, Libye et Tchad. La situation parmi ceux-ci est en train de se dégrader. Madame Merkel admet que le but est de bloquer les flux migratoires africains de manière permanente et de travailler sur ces clauses Turquie-Grèce. Il y a aussi, au cours de ce sommet, certaines décisions qui ont été prises, qui ont diminué les flux. Certaines ONG condamnent ces évolutions et incitent les responsables, y compris le chancelier Merkel, de reconnaître que la situation dans ces camps est inhumaine. Mais la coordination entre les Italiens et les gardes-côtiers libyens évolue pour essayer d'empêcher les flux en Méditerranée, avec des conséquences inévitables qui sont graves pour l'avenir et déjà présents. Il y a des problèmes au niveau juridique qui ne sont pas dans le fil du respect des droits de l'homme à minima, les principes de la Révolution française et tout ce qui a marqué l'Europe comme étant les gardiens de droits individuels, la tolérance et la solidarité sociale. Le libéralisme, aujourd'hui, est en train de définir le calendrier de ces questions sociales. Nous savons qu'il y a des difficultés financières et autres, mais nous ne sommes pas convaincus qu'il n'est pas possible d'entrevoir d'autres solutions. Il faut envoyer des missions spécialisées pour voir les conditions des migrants dans les pays africains. Il faut essayer de travailler sur la légitimité, il faut travailler sur des initiatives pour essayer de voir si et comment l'Assemblée peut soutenir le droit ou la pratique des droits de ces personnes-là, chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui.
Bien, Madame la Présidente. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Oussala du Parlement algérien.
Merci, Monsieur le Président.
Au nom de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, j'aimerais en réalité revenir sur ce qui a été évoqué par certains de mes collègues, et notamment mon collègue de Jordanie, d'Égypte, et mon voisin de banc ici, mais aussi mon voisin géographiquement, les gens d'Afrique du Nord. Il ne faut pas non plus négliger ce qui a été dit, notamment par mon éminent collègue de Palestine, qui condamne avec force l'occupation de la Palestine par l'entité israélienne, et ce qui se rattache aussi à la nécessité d'insister sur le fait que l'histoire de l'humanité doit porter haut les valeurs du respect des droits et que les guerres découlent directement de ces histoires d'occupation et sont à l'origine des phénomènes migratoires. Dans cette petite intervention, j'aimerais peut-être aussi évoquer ce qui a été évoqué par Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale des migrations à propos de la politique qui prévaut en matière de relations entre les pays d'accueil et les pays d'origine. Et comme cela a été dit aussi par le collègue marocain, il faudrait que l'on essaye d'échanger nos pratiques et peut-être parler de ce qui se passe dans nos différents pays. Nous aimerions profiter de cette occasion pour discuter par exemple de ce qui se passe dans mon pays, l'Algérie, au niveau des recherches scientifiques par exemple, et ce qui se passe en termes de liens entre le ministère de l'enseignement supérieur et les diasporas à l'étranger. C'est très difficile d'imaginer qu'il y aura un rapatriement des matières grises algériennes qui vont effectivement revenir dans le pays d'origine. Donc, il faut réfléchir à ce chapitre des recherches au niveau scientifique. Et puis, ce que disaient mes éminents collègues, notamment de l'IOM, ce qui se passe en Algérie, qui inclut au niveau de sa chambre basse représentants de la diaspora qui entretient des liens avec le pays d'origine et avec les migrants. Il y a eu des modifications constitutionnelles, notamment impulsées par M. le Président Bouteflika en 2016, avec des dispositions qui parlent de l'obligation des droits des pays vis-à-vis de la population à l'extérieur et des droits pour la communauté internationale en question. Il est très important que le pays vaque à la protection des droits des citoyens à l'étranger et renforce les liens avec le pays le pays de naissance, le pays mère, le pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie. Donc très important d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de la diaspora à l'étranger. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais essayer de parler de cette équation difficile, de l'équilibre juste à trouver, qu'il faut essayer de promouvoir dans cette rencontre, et en fait d'essayer de conforter cette idée d'une double fidélité, la fidélité au pays d'origine, la fidélité au pays d'accueil. C'est quelque chose de difficile, et le droit national qui consacre le principe de l'appartenance est devenu un concept sur lequel nous devons réfléchir plus avant pour le faire prospérer. Le pays d'accueil apporte la possibilité de faire respecter ses droits, etc. Il faut essayer de réfléchir au juste équilibre de cette équation très délicate. C'est un sujet très important et C'est pour ça que cette tribune d'échange est particulièrement importante. J'aimerais donc saluer, féliciter, remercier les autorités portugaises, le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire, le Parlement du Portugal pour l'excellence de cet accueil. Merci, Monsieur le Président, dans le texte.
Merci, Monsieur Oussalin. La parole est à Monsieur Marques du Parlement portugais.
Thank you, Mr. President. I will speak in Portuguese as we.
Merci, je parlerai en portugais puisque nous nous trouvons au Portugal. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue en mon nom personnel. Je fais partie de la délégation à l'Assemblée parlementaire. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus d'un peu partout dans le monde, féliciter la commission des migrations de la PCE et également féliciter l'Assemblée de la République. J'entendais mes collègues s'exprimer et je me rappelais que dans la plupart de nos débats au sein de la PCE et tout récemment j'ai eu l'occasion et le privilège de présenter un rapport sur une réponse à la crise des réfugiés avec Madame Cavalli et me suis aperçue que nous sommes d'accord sur 95% des réflexions afférentes à la question des réfugiés et sur la façon dont nous pouvons minimiser les problèmes humanitaires, enfin les réduire et œuvrer à des conditions d'intégration qui permettent également aux migrants à retourner de façon sûre dans leur pays et ainsi essayer d'étancher le flux de réfugiés en créant des conditions qui permettraient à ces pays de résoudre leurs problèmes. Donc nous sommes tous d'accord pour dire que la solution dans les pays d'origine comme les pays d'accueil est fait l'objet d'une unanimité, disons, à 95%. Mais la raison qui nous rassemble ici, et c'est surtout celle-ci, mettre sur le même niveau les représentants des diasporas, les représentants des ONG et les parlementaires nationaux. Et je crois que nous y sommes parvenus. Nous devons rechercher ce qui nous unit et essayer de donner la parole aux représentants des diasporas pour que ces diasporas nous entendent et nous disent comment nous pouvons œuvrer à leur intégration. Et c'est là le but de cette conférence, c'est le but de telles initiatives. Et une telle initiative n'a de sens que si nous œuvrons dans ce sens-là. Le diagnostic est posé et nous devons essayer de justifier comment cette plateforme pourra améliorer la situation des diasporas, que ce soit au Portugal ou ailleurs, pour que leurs représentants puissent mieux intégrer leurs citoyens dans les pays d'accueil et pour améliorer la relation entre les élus et ceux qui représentent les immigrants. Et voilà l'appel que je vous lance. J'ai entendu les interventions et j'ai eu un peu peur que cette conférence ne vienne que répéter ce que nous avons déjà fait à plusieurs reprises. Et donc, je pense qu'il faut saisir cette occasion pour collaborer davantage de façon plus pragmatique pour offrir un meilleur accueil à ceux qui viennent chez nous. Merci.
Je vais clôturer la liste des intervenants. Il me reste un orateur. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs qui veulent s'inscrire? Personne? Et après, on donnera la parole à Monsieur le directeur général. Oui, je donne la parole à Monsieur Munyama et puis après, Madame. Et Monsieur Munyama, Parlement de Pologne, vous avez la parole.
Yes, please. Thank you very much for the floor, the chair.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis parlementaire polonais et je voudrais partager avec vous des expériences pour ce qui est de notre diaspora. les mouvements d'individus viennent de tous les coins du monde, du sud vers le sud, du nord, du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest, comme ça a été le cas de si nombreux Polonais qui se sont rendus au Royaume-Uni. Et beaucoup d'entre nous se trouvent également en Irlande. Et nombre de Polonais vivent dans d'autres pays européens. Mais en même temps, nous recevrons beaucoup d'Ukrainiens en Pologne, plus d'un million. Et donc, le mouvement est un mouvement constant. Mais comme l'a dit mon collègue Marcus, nous devons trouver un terrain d'entente, un territoire commun pour que nous puissions résoudre les problèmes actuels des diasporas. Et les expériences, nombre de parlements dans différents pays sont différentes. C'est pourquoi nous devons apprendre ensemble. Nous pouvons donner un certain enseignement à ceux qui manquent d'expérience. Nous, en Pologne, avons une petite diaspora africaine et cette diaspora a une influence sur les relations entre la Pologne et le continent africain. Et nous avons joué un rôle dans un programme qui a pour but de permettre ou plutôt d'accroître la coopération point de vue économique, politique et social entre la Pologne et les pays africains. C'est pourquoi j'aimerais souligner qu'il est nécessaire d'apprendre les uns avec les autres et d'apprendre notamment avec le Portugal pour ce qui est du rapport entre le Parlement portugais et les diasporas qui se trouvent dans ce pays. C'est pourquoi je crois que nous avons ici l'occasion de partager et d'échanger sur beaucoup de questions qui sont de première importance. Je suis tout à fait d'accord avec les délégations de Palestine, de Jordanie, qui ont vécu la question de l'occupation de la Palestine, qu'il est l'un des problèmes majeurs à résoudre, sans oublier la guerre en Syrie qui a de très fortes conséquences sur le déplacement des gens. Donc je me réjouis et je me félicite de cette réunion en espérant que nous pourrons apporter une solution à la question des diasporas. Merci beaucoup.
La parole est à Madame Barocco, qui est la directrice générale de la plateforme mondiale pour les étudiants syriens. Madame Barocco, vous avez la parole, dernier orateur inscrit.
Thank you.
Merci beaucoup. Comme l'a dit le précédent orateur portugais, je m'exprimerai en portugais. Je vous remercie de me donner l'occasion d'intervenir. J'appartiens à la catégorie autres participants, donc je n'étais pas sûre d'avoir le droit de m'exprimer, mais puisque vous me donnez la parole, je vous en remercie. J'aimerais évoquer une initiative qu'a lancée le Portugal en 2013, et une initiative a été mise en œuvre et qui est un exemple de bonne pratique et d'intégration. Et il s'agit en l'occurrence de l'intégration de réfugiés et de personnes en situation d'urgence. Je parle précisément au programme de bourse d'études pour les étudiants syriens. C'est une initiative qui est, à mon sens, pionnière en Europe. Nous l'avons faite évoluer pour qu'elle devienne plus vaste et plus englobante. C'est ainsi que l'année dernière, dans le contexte du sommet des Nations Unies sur les réfugiés et les immigrants, le 19 septembre dernier, nous avons plaidé pour l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants et des personnes forcées à se déplacer. Et nous avons obtenu que cette exigence soit inscrite au paragraphe 82 de la déclaration. En ce moment, nous développons un projet plus vaste qui a pour but d'apporter une réponse durable et systémique pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur en cas d'urgence. Je parle précisément de la création d'un mécanisme rapide de réponse pour l'enseignement supérieur en cas d'urgence. Je ne voudrais pas m'allonger sur sur ce sujet, mais si vous voulez en savoir davantage et vous associer à ce projet, je serai ravie de vous en fournir davantage d'informations que vous trouverez sur notre site web Global Platform for Syrian Students. Merci.
Merci Madame Brocco. Monsieur le directeur général, Monsieur Lassie Swing, vous avez beaucoup, il a été fait beaucoup de références à votre intervention. Est-ce que vous souhaitez nous dire un mot de conclusion?
Thank you very much.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma femme était ici, elle m'aurait admonestée en me disant que je veux toujours avoir la dernière le dernier mot, ce que je fais. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'interventions, des interventions tout à fait riches et fructueuses. Je trouve ça assez encourageant, je dirais même presque porteur d'inspiration. Le fait de voir que tant d'entre vous, des parlementaires, des représentants d'ONG ou d'autres personnes, sont concernés par ce problème qui est un des problèmes les plus importants de notre temps. Je voudrais à nouveau utiliser cette idée d'avoir les trois points. J'essaye de tout regrouper sous couvert de trois points. Je crois que ce qui ressort de tout cela est qu'il y a nécessité de reconnaître qu'il n'y a pas suffisamment ce sens du partage de la responsabilité, cette responsabilité conjointe. Un rôle tout à fait fondamental que doivent jouer les parlements pour essayer de créer ce sentiment de la responsabilité conjointe ou partagée. Prenez nos collègues qui se sont adressés à vous aujourd'hui et qui, par exemple, les quatre voisins de la Syrie, la Jordanie qui est obligée d'accueillir 1,5 million environ de réfugiés syriens, le Liban avec une population de 4 millions avec 1,5 million de Syriens, plus le collègue qui parlait, 500 000 Palestiniens, notre collègue de Palestine parlait, qui sont là au Liban depuis des années. Donc en gros, ça représente 2 millions de réfugiés sur une population globale de 4,5 millions. Très important de mettre tout cela en perspective. Tous les six voisins de la Libye, après la chute du président Kadhafi en 2011, les six pays ont ouvert leurs portes. C'est un coût économique important pour leur pays parce qu'il y avait ce sens de la responsabilité conjointe. On peut toujours arguer du fait que c'est parce que d'aucuns parlent la même langue ou culturellement ils sont similaires ou semblables, mais en fait ils ont assumé la responsabilité et ne pas oublier cela est important. Gardons tout ça en perspective. Et je pense aussi à mes deux dernières visites en Libye, une dernière environ il y a 4 semaines, avec 31 centres de rétention dans des conditions absolument épouvantables. Nous essayons d'aider le gouvernement à construire la capacité à faire face à la situation. Nous avons 200 personnes de notre personnel déployé en Libye pour essayer de faire face à la crise, pour essayer de créer des centres d'accueil ouverts en séparant femmes et hommes, de sorte à ce qu'il y ait des conditions un peu plus humaines. Mais compte tenu de cette idée de la responsabilité conjointe, qui émerge comme un problème fondamental, je crois qu'on est au cœur du problème de la migration. Nous en avons discuté et négocié le 13 septembre dernier à New York. Nous pensons qu'il s'agit là de la meilleure opportunité qui nous soit offerte d'acquérir l'attention de ceux qui ne sont pas signataires de la Convention des réfugiés de 1951. Beaucoup de gens sont sur les routes, ils sont vulnérables. Vous le savez vous-même quand vous vous déplacez. Quand vous déplacez, eh bien, vous êtes par définition vulnérable. La langue, l'accident éventuel, etc. Et ça m'amène à mon point numéro 2. Si je considère le monde aujourd'hui, je constate que l'une des réalités qui me heurte au visage, c'est précisément le taux de chômage. ceci particulièrement important dans le monde en développement et notamment en Afrique avec des taux de croissance démographique importantes. Plus de gens en Europe qui meurent que de gens qui naissent avec un déséquilibre de la pyramide des âges et un déséquilibre au niveau du marché de l'emploi. Donc il faut faire quelque chose et je crois que ce pacte global ou mondial devrait nous aider. Il y a les victimes de la traite. Nous avons assisté qu'il y a plus de 9000 victimes de la traite qui ont instruit des dossiers. Ensuite, la population vieillissante. Ensuite, ce que l'on trouve dans les centres de rétention en Libye. La grande majorité de ceux-ci étant des migrants à caractère économique, cherchant du travail. Ils sont jeunes. Donc, il faut être créatif dans l'imagination de nos politiques. Il y a l'Organisation mondiale du commerce à un pas de nos bureaux à Genève qui parle de la libre circulation des capitaux et des services. Il y a quelque chose qui manque, un élément qui manque, c'est les gens pour le faire. Je ne parle pas de frontières ouvertes, mais nous n'avons pas encore réellement adapté ces politiques-là aux nouvelles réalités des temps que nous vivons. Et je crois qu'il conviendrait que nous soyons plus créatifs, créer un statut de l'immigré avant de rentrer, enfin des statuts temporaires d'étudiants, des statuts temporaires pour permis de travail. On peut le faire et c'est la raison pour laquelle cette conférence est très prometteuse pour essayer de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour mieux aider. Bien sûr, il y a un nouvel élément maintenant et qui est en rapport avec l'idée de la migration dans la vox populi ou dans l'opinion publique mondiale et c'est la notion de terrorisme qui rend le dialogue encore plus toxique et donc beaucoup de travail reste à faire pour mieux traiter ce qui se passe à ce niveau. Nous avons aussi beaucoup parlé de l'intégration par opposition à la marginalisation. Certains d'entre vous ont dit qu'on peut être à la fois pleinement intégré et en même temps être un membre actif de la diaspora. Et ça, c'est véritablement la panacée, la formule magique. Quand on sert de concert, le pays hôte et le pays d'origine. Et c'est véritablement comme ça que les choses devraient se faire, établir des liens. Et le retour des ressortissants qualifiés, nous avons vu un grand nombre de Somaliens qualifiés, hautement qualifiés, revenir en Somalie. Nous l'avons fait pour reconstruire le secteur public et nous l'avons fait dans 30 ou 35 pays. Nous avons besoin de le faire de manière plus systématique et ne pas se concentrer uniquement sur l'Europe. Je crois qu'il y a un élément qui manque. Je salue les efforts de la Commission européenne et ce que fait aussi le Conseil de l'Europe, mais je pense que nous devons faire face à trois défis. Et je ne veux absolument pas dire que l'Europe prête le flanc à la critique, mais premièrement, vous n'avez pas véritablement de crise de migrants autant que d'une crise politique. Le 1,5 million de personnes arrivées dans les décennies passées, comparaison du 1,5 million au Liban, compte tenu de population de 550 millions, aurait dû être une situation facile à gérer et non pas une crise. Mais en réalité, le chancelier disait, on peut le faire. Elle devait partir du principe que certains des 27 autres pays suivraient, prendraient le même chemin, avant de déchanter peu de temps après. Donc la façon dont fonctionne l'Union européenne, c'est partie du problème. Je ne veux pas jeter l'Europe, mais 21 pays de l'Europe font partie de mon organisation. On travaille de manière étroite avec nous avons des accords stratégiques avec l'Union européenne. Je viens de signer un accord de 200 millions d'euros avec Madame Mogherini pour essayer de créer ces stations en Afrique, comme ce que nous avons à Gadarza au Niger, pour essayer d'aider les migrants chemin faisant et de ne pas les laisser tomber, devenir la proie de contrebandiers. autre chose, ce que j'appelle la cause de Javier Solana, c'est-à-dire la cause des réfugiés. Nous avons oublié, ma propre organisation, l'IOM, je suppose que certains d'entre vous s'en rappellent, a été fondée en 1951 pour accueillir les réfugiés européens, pour sauver de nouvelles vies. Mais aujourd'hui, enfin, j'imagine que la plupart a oublié ça. Et la Hongrie disait que 200 000 Hongrois ont fui il y a quelques 60 ans. Regardez la situation. Troisième zone de défi pour l'Europe, me semble-t-il, c'est ce que j'appellerais l'ajustement psychologique. Les gens du monde, et ce pendant les trois derniers siècles, qu'il s'agisse de colonies, de sociétés multinationales, pour le Canada, deviennent maintenant des pays de destination, mais il y a un désajustement démographique. Comment on gère ? Comment gère-t-on tout cela ? Ça va devenir une réalité. Mais excusez-moi, là, j'ai de nouveau abusé de la parole, je devais être concis.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, je voudrais vous remercier tous les orateurs qui se sont exprimés ce matin dans ce débat qui a été très riche et qui va se poursuivre, bien sûr. Maintenant, nous allons lever la séance. Je vais demander aux membres des deux sous-commissions qui devaient se réunir à 15h, qui vont se réunir à 14h30 ici, les membres des deux sous-commissions. Maintenant, je voulais vous dire aussi qu'on est invité à un déjeuner qui est offert par l'Assemblée, par le Parlement. Et donc, pour se rendre à l'endroit du déjeuner, il va falloir suivre les personnes du protocole, donc essayer de se regrouper pour essayer de ne pas se perdre dans les couloirs. D'autres annonces ? Non ? Voilà, je vous souhaite un bon appétit, puis à cet après-midi à la reprise, et encore merci, monsieur le directeur général.
C'est brillant. Comme toujours.